Chapitre 6. Au lieu de répondre à la question de Z, Richard passa à autre chose, comme s'il avançait à grands pas sur une route qu'il était seul à connaître et à emprunter. Les carillons. Anna et toi, vous en êtes occupés? En principe, ce n'est pas une affaire compliquée. Vous l'avez réglé?
Pas compliqué?
Répéta Z, rouge comme une pivoine sous sa crinière blanche.
« Qui t'a raconté ça ?»«
Je l'ai lu quelque part, » répondit Richard, qui sembla étonné par cette question. « Alors, le problème est résolu ?»«
Nous avons déterminé qu'il n'y avait rien à résoudre, »
dit Anna un peu agacée.
« C'est exact, »
confirma Z.
« Que veux-tu dire avec ton affaire pas compliquée ?»
Colo raconte que ce sujet a inquiété tous les sorciers au début. Mais après une enquête minutieuse, ils ont découvert que les carillons étaient des armes très simples et faciles à désamorcer. Richard leva nerveusement les mains.
« Comment avez-vous su qu'il n'y avait rien à résoudre ? Pour commencer, en êtes-vous sûr ?»« Colo ? Fiche très foutre, Richard ! De quoi parles-tu ? Qui est ce Colo ?»
Richard agita une main comme s'il implorait qu'on cesse de l'importuner, puis il se leva, approcha de la fenêtre et écarta un peu le rideau. Le poulet n'était nulle part en vue. Alors que le sourcier se penchait en avant pour regarder dehors, Callan répondit une nouvelle fois à sa place. « Richard a trouvé dans la forteresse un journal intime, rédigé en Haut-Daran. Avec l'aide de Burdine, une des morts de Sith, il a travaillé dur pour le traduire. Son auteur était un sorcier qui vivait dans la forteresse à l'époque de l'Antique Guerre. Ignorant son nom, Richard et Burdine l'ont surnommé « Colo ». D'après un mot en Haut-Daran qui signifie « conseiller avisé ». Ce texte fourmillait d'informations précieuses.
Z jeta un coup d'œil soupçonneux à Richard, puis d'un ton méfiant posa une question à l'inquisitrice.
« Et où ton sourcier a-t-il trouvé ce journal ?»
Comme si tout cela ne le concernait pas, Richard commença à faire les 100 pas dans la petite pièce.
« La salle de la Slif, » répondit Callan, « tout en bas de la grande tour. » « La grande tour ?»
répéta Z sur le ton d'un procureur qui lit un acte d'accusation.
« Bien entendu, tu ne parles pas de la salle condamnée depuis des lustres. »
« J'ai bien peur que oui. Quand Richard a détruit les tours de la perdition qui séparaient l'ancien et le nouveau monde, la porte de cette salle a explosé. C'est là qu'il a trouvé les ossements de Colo, le journal et la Slif. »
Richard s'immobilisa devant son grand-père.
« Z. « Nous parlerons de tout ça plus tard. Pour le moment, dis-moi pourquoi tu penses que les carillons ne sont pas ici. »«
Ici ?»
répéta Callan dérouté.
« Que veux-tu dire ?»«
Dans notre monde. Z, comment peux-tu en être certain ?»
D'un index, le vieux sorcier désigna la place vide autour du dessin.
« Assieds-toi, mon garçon. Te voir marcher comme un lion en cage me donne le tournis. »
Avant d'obéir, le sourcier alla jeter un dernier coup d'œil par la fenêtre.
« Z, demanda Callan, que sont les carillons ?»« Des créatures contrariantes, rien de plus. »«
Contrariantes ?»
s'écria Anna en se flanquant une claque sur le front.
« Tu veux dire catastrophiques ?»«
Et c'est moi qui les ai invoquées ?»
demanda Callan, accablé. Elle avait prononcé à voix haute les trois carillons, des noms de créatures, semblait-il. Pour activer la magie qui sauverait Richard. Sur le moment, elle ignorait ce que signifiaient ces mots, mais si elle ne les avait pas dit, son bien-aimé serait mort quelques secondes plus tard.
« Ne t'en fais donc pas !»
souffla Z, apaisant.
« Comme le souligne Anna, ces créatures peuvent être des sources de perturbations, mais... »
Après s'être assis, Richard remonta jusqu'à ses genoux les jambes de son pantalon.
« Z, réponds à ma question, je t'en prie. » Comment sais-tu qu'ils ne sont pas dans notre monde ? Les carillons obéissent à ce qu'on pourrait appeler une règle de trois. Sans doute parce qu'ils sont un trio. Richani, Sentrosi, Vassi.
Callan faillit en bondir sur ses pieds.
Je croyais qu'il ne fallait jamais prononcer ces mots à voix haute. Tu ne dois pas le faire. Une personne ordinaire peut les clamer sur tous les toits sans conséquences désastreuses. J'en ai le droit, tout comme Anna et Richard.
Ce n'est pas le cas pour les êtres comme toi, extrêmement rares, il faut le préciser.
Pourquoi moi?
Parce que ta magie est assez puissante pour les appeler au secours au profit d'une tierce personne. Mais comme tu n'as pas le don qui protège le voile, les carillons peuvent aussi voler sur les ailes de ta magie pour parvenir jusque dans notre monde. C'est pour ça que leurs noms sont en principe secrets.
Alors ils sont peut-être ici?
Oui, c'est possible,
soupira Richard, soudain pâle comme un mort.
Non, non, non,
s'exclama Zed.
Il y a une multitude de protections et un nombre incroyable de conditions à remplir.
Zed brandit un index osseux pour intimer le silence à Richard qui allait poser une question.
Par exemple, il faudrait que Callan soit ta troisième épouse. Ça te coupe la chic, pas vrai? Mais sire, je sais tout parce que je l'ai lu dans un livre.
Nous l'avons échappé belle,
soupira Richard.
Callan n'est que ma seconde épouse.
Quoi?
Zed leva si haut les bras qu'il manqua basculer en arrière.
Que veux-tu dire, mon garçon? Je t'ai vu naître puis grandir, et je sais que tu n'as jamais aimé quelqu'un d'autre que Callan. Pourquoi diantre aurais-tu épousé quelqu'un avant elle?
Richard échangea un regard peiné avec sa femme, puis il s'éclaircit la gorge.
C'est une longue histoire, mais tu devras te contenter de la fin. Pour entrer dans le temple des vents et arrêter la peste, j'ai dû prendre Nedine pour femme, donc Callan est bien ma seconde épouse.
Nedine?
Répéta Zed en se gratouillant la joue.
Nedine Brighton?
Oui,
répondit Richard. Il tapota le sol. Elle est morte peu après la cérémonie.
C'était une brave petite,
soupira Zed,
et qui voulait devenir guérisseuse. La pauvre chérie, ses parents seront désespérés.
La pauvre chérie, oui,
marmonna Callan. Nedine voulait Richard, et rien n'avait semblé en mesure de l'arrêter. Inlassablement, le sourcier lui avait répété qu'il n'y avait rien entre eux, qu'il en serait toujours ainsi et qu'il désirait la voir rentrer chez elle au plus vite. La jeune femme faisait mine d'avoir compris, jurait qu'elle n'insisterait plus, puis recommençait son manège. Très vite, ce comportement avait tapé sur les nerfs de Callan. Même si elle n'aurait pas sérieusement souhaité qu'il lui arrive malheur, et encore moins qu'elle connaisse une fin atroce, l'inquisitrice n'avait aucune intention de s'apitoyer hypocritement sur la fin de cette garce, comme l'appelait à juste titre Cara.
« Callan, pourquoi es-tu rouge comme une tomate ?»
demanda Zed.
« Eh bien,
gêné par les regards inquisiteurs du sorcier et de la dame abbesse, Callan jugea urgent de changer de sujet.
« Attendez une minute. Quand j'ai prononcé les trois carillons, Richard et moi n'étions pas encore mariés, donc il n'avait même pas de seconde épouse à ce moment-là.
« C'est encore mieux, »
dit Anna.
« Une pierre de guet de moins pour ces trois affreuses créatures.
Ne vous réjouissez pas trop vite. »
intervint Richard en prenant la main de sa bien-aimée.
« Quand nous avons prononcé des vœux pour me permettre d'entrer dans le temple des vents, ils s'adressaient à d'autres personnes, mais dans nos cœurs, nous nous les disions l'un à l'autre. En un sens, nous sommes mariés depuis cet instant-là. Il arrive que la magie, celle du monde des esprits en tout cas, obéisse à des règles ambiguës de ce genre.
« Tu as raison, malheureusement, »
soupira Anna.
« Peut-être bien, » dit Zed. « Mais dans tous les cas, cela te fait deux épouses, pas trois. »
Il riva sur les deux jeunes gens un regard soupçonneux.
« Chaque fois que vous ouvrez la bouche, votre histoire devient de plus en plus compliquée. Je dois tout entendre. »
« Avant de partir, nous pouvons t'en raconter des bribes. En Aïdindril, nous aurons le temps d'entrer dans les détails, mais il nous faudra bientôt filer. »«
Pourquoi es-tu si pressé, mon garçon ?»
Jagan rêve de mettre la main sur la magie dangereuse conservée dans la forteresse du sorcier. S'il réussit, ce sera un désastre. Zed, tu es le plus qualifié pour défendre ton fief, je le sais. Mais en attendant, nous serons mieux que rien, Callan et moi. Si nous avions été absents quand Jagan a envoyé Marlene et sœur Amelia...
« Amelia !»
s'écria Anna. Elle ferma les yeux et se prit la tête à deux mains.
« Elle est donc une sœur de l'obscurité.
Savez-vous où elle est ?»«
La mère inquisitrice l'a également tuée. »
lâcha Cara, toujours adossée à la porte.
Callan foudroya du regard la mort de Sith qui lui sourit comme une grande sœur fière de sa cadette.
« Tu es très efficace, mon enfant, »
dit Anna en ouvrant un œil pour dévisager l'épouse de Richard.
« D'abord un sorcier possédé par celui qui marche dans les rêves, puis une femme investie des sombres pouvoirs du gardien. »«
L'énergie du désespoir, rien de plus. »
« Les actes désespérés sont parfois l'expression d'une puissante magie, »
lança Zed avec un petit rire approbateur.
« Invoquer les Carillons était aussi un acte désespéré, » dit Callan. « Et toujours pour sauver la vie de Richard. Zed, que sont les Carillons? Et pourquoi étiez-vous si inquiet ?»
Le vieux sorcier changea de position pour soulager un peu ses fesses insuffisamment rembourrées.
Si la mauvaise personne les invoque pour empêcher quelqu'un de franchir cette ligne,
sur le dessin, il désigna la frontière du royaume des morts,
eh bien, elle risque, sans le vouloir, de les amener dans le monde des vivants, où ils rempliront la mission pour laquelle ils furent créés, à savoir détruire la magie.
Ils l'absorbent,
précisa Anna.
« Comme la terre desséchée en été boit goulûment une averse. Ce sont des créatures en un sens, mais pas vivantes. En réalité, les Carillons n'ont pas d'âme. »
Zed approuva gravement du chef.
« Ce sont des êtres nés de la magie du royaume des morts. Ils neutraliseraient la nôtre. »«
En éliminant tous ceux qui la contrôlent ?»
demanda Callan.
« Leur contact est mortel. » Comme celui des ombres que nous avons affrontées en traversant la frontière, puis dans le village du peuple d'Adobe ?
Non,
répondit Anna.
Ils peuvent tuer et ils ne s'en privent pas quand l'occasion s'offre à eux, mais leur seule présence en ce monde, si elle se prolongeait, suffirait à détruire la magie. Au bout du compte, tous ceux qui survivent grâce au pouvoir périraient. D'abord les plus faibles, puis les plus forts à la fin.
« Ne perdez pas de vue, » dit Zed, « que nous ne savons pas grand-chose à leur sujet. Ce sont des armes créées pendant l'antique guerre par des sorciers dont le pouvoir me dépasse. Le don n'est plus ce qu'il était, mes enfants. »
« Si les Carillons venaient dans notre monde et détruisaient la magie, que se passerait-il ? »
demanda Richard.
« Sans l'homme-oiseau et les anciens, le peuple d'Adobe, par exemple, serait-il simplement incapable de contacter les esprits de ses ancêtres ?
J'ai compris que toutes les créatures magiques disparaîtraient, mais qu'en serait-il des autres?
Les gens sans pouvoir, les animaux, les plantes, resteraient-ils vivants comme en Terre d'Ouest où il n'y avait pas de magie?
Callan sentit le sol trembler sous elle. Dehors, l'orage se déchaînait. Dans la cheminée, le feu semblait crépiter haineusement pour tenir à distance l'eau, son ennemi de toujours.
« Désolé, mon garçon, mais nous ignorons la réponse. Il n'y a pas de précédent, comprends-tu ? Le monde est trop complexe pour notre pauvre compréhension. Le Créateur seul sait comment interagissent ces multitudes de composants. »
À la lueur des flammes, le visage du vieux sorcier parut soudain sinistre.
« Mais je crains que ce soit bien pire que ce que tu viens de décrire. »«
Dans quelle mesure ?» demanda Richard.
Tirant minutieusement sur les plis de sa tunique le long de ses jambes, Zed prit le temps de la réflexion avant de répondre.
« À l'ouest de ce village, dans les hautes terres qui dominent la vallée de Naref, jaillissent les multiples sources de la rivière Damar, qui, beaucoup plus loin, vient se jeter dans le fleuve Drun. En traversant les hautes terres dont le sol est empoisonné, ces eaux se chargent de substances mortelles. Ces hautes terres, mes enfants, sont un désert. On n'y trouve rien, à part les eaux blanchies des animaux qui y sont restés trop longtemps et ont souvent bu l'eau meurtrière. »
Le vieil homme écarta les bras pour communiquer à ses interlocuteurs un sentiment d'immensité.
« Des milliers de ruisselets et de ruisseaux dévalent les pentes des montagnes pour se déverser dans un grand lac, puis continuer leur route vers la vallée. Sur la berge de ce réservoir naturel, surtout au sud où descendent les eaux, le paca, une plante rare, pousse en abondance. Ce végétal ne résiste pas seulement au poison, il s'en nourrit. Et les chenilles d'une certaine espèce de papillon consomment ses feuilles et filent leurs cocons au milieu de ses tiges charnues. Les oiseaux nettoyeurs nichent à l'entrée de la vallée de Naref, sur les falaises qui bordent les hautes terres où s'étend le lac. Ils se délectent des baies de pata qui poussent juste au-dessus d'eux. En conséquence, ils comptent parmi les rares animaux qui s'aventurent dans les hautes terres, mais ils ne boivent pas l'eau empoisonnée.
« Les baies ne sont pas dangereuses ?» demanda Richard.
« Non. Par un miracle de la création, le paca pousse grâce à des substances mortelles, mais ses fruits restent inoffensifs. Et les eaux qui descendent de la montagne filtrées par le paca sont pures, limpides et parfaitement potables. Une autre créature vit dans les hautes terres. Le papillon gambit. Peut-être ainsi nommé parce que sa façon de voler attire irrésistiblement les oiseaux nettoyeurs, qui se nourrissent pourtant surtout de graines et de baies. Bien entendu, sur son territoire dévasté, ce papillon n'a pas beaucoup d'autres prédateurs. Mais revenons au paca. Bizarrement, cette plante ne peut pas se reproduire seule. J'ignore si c'est un effet du poison, mais la cosse de ses graines est très dure et refuse obstinément de s'ouvrir. Pour l'y forcer, il faut le soutien de la magie. »
Le vieil homme plissa les yeux et écarta les bras comme pour annoncer le moment dramatique de son récit. Callan se souvint de ses émerveillements de petite fille quand elle avait entendu pour la première fois l'histoire du papillon Gambit assis sur les genoux d'un sorcier dans une mystérieuse salle de la forteresse.
« Le papillon détient cette magie, » continua Zed. « Savez-vous d'où elle lui vient ? Eh bien, simplement de la poussière qui se dépose sur ses ailes. Quand un oiseau nettoyeur mange un papillon alors qu'il s'est déjà gavé de baies de paca, la poussière magique dans son ventre s'attaque aux cosses des minuscules graines et les fissures. Plus tard, avec leurs fientes, les oiseaux ensemencent la berge du lac et de nouvelles pousses de paca voient le jour. Pour boucler la boucle, des papillons gambites viendront un jour y pondre leurs œufs et leurs chenilles, une fois écloses, se nourriront des feuilles avant d'être assez fortes pour filer des cocons, qui donneront naissance à de nouveaux papillons gambites.
« Je vois où tu veux en venir, » intervint Richard. « Si la magie disparaissait, les papillons perdraient la leur. Alors le paca ne se reproduirait plus, les oiseaux nettoyeurs crèveraient de faim, et les chenilles également affamées ne fileraient plus de cocons. Bref, la plante et les deux espèces animales seraient condamnées à l'extinction.
« Réfléchis un peu, mon garçon, ça ne s'arrête pas là. »
« Tu as raison. Sans paca pour les filtrer, les eaux qui traversent la vallée de Naref seraient toujours empoisonnées. »«
Exactement, fiston. » Elle tuerait tous les animaux qui s'abreuvent à la rivière d'Amar, en aval du lac. Les daims, les cerfs, les porcs-épics, les campagnols, les hiboux, les oiseaux. Sans parler de tous les prédateurs qui dévoreraient leurs cadavres. Les loups, les coyotes, les vautours, tous mourraient.
Zed se pencha en avant et brandit théâtralement un index.
Même les vers.
Oui, approuva Richard. Les troupeaux qui paissent dans la vallée seraient sûrement affectés aussi, tout comme les terres cultivées. Une catastrophe pour les habitants, humains compris, de la vallée de Naref.
« Tu n'y es pas encore tout à fait, » dit Anna. « Pense à ce qui se passerait si la viande de ces troupeaux était vendue avant qu'on sache qu'elle est contaminée. »«
Ou les récoltes ?» ajouta Callan.
« Oui, » insista Zed, « imagine toutes les conséquences. »
« La rivière d'Amar se jette dans le fleuve Drun, » dit Richard, « qui serait également contaminé. Le poison ferait des ravages bien plus loin en aval que je le pensais. »«
Le fleuve traverse un pays appelé Toskla, des centaines de fois plus grand que la vallée de Naref. Les champs de ce royaume fournissent de la nourriture à une multitude de gens dans les contrées. » Les Toscliens, des commerçants dans l'âme, envoient sans cesse des caravanes vers le nord.
On voyait bien, pensa Callan, que Zed avait quitté les contrées depuis longtemps. Toskla était un nom obsolète. Ce royaume était situé très loin au sud-ouest, et le pays sauvage, comme une grande mer, le séparait des autres membres de l'Alliance. La population dominante qui se donnait actuellement le nom d'Andériens adorait changer d'appellation et modifier en conséquence celle de son pays. Au fil du temps, le royaume que Zed nommait Toskla était devenu Vengrun,
puis Vindis, puis Turslan. Aujourd'hui, il s'appelait Anderit.
Si les Toscliens vendaient leurs récoltes sans avoir conscience du danger, continua Zed, un nombre incalculable de gens périraient. Et s'ils s'en apercevaient à temps, ils suspendraient leur négoce et n'auraient plus rien pour acheter de la nourriture. Leurs troupeaux ayant succombé, ils tenteraient de pêcher, mais les eaux côtières seraient sûrement empoisonnées par celles du fleuve Drenne, et à cause de leur système d'irrigation, leurs champs seraient sans doute inexploitables pendant très longtemps. Sans pouvoir se reposer sur l'élevage ni la pêche, et privés de leur principale source de revenus, les Toscliens n'auraient pas beaucoup de chances de survivre, mais là encore, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire.
Dans les autres royaumes, les récoltes toscliennes manqueraient cruellement. Cela ouvrirait des temps très difficiles, puisque le commerce de tous ces pays pâtirait d'avoir perdu un partenaire qui achetait beaucoup de biens manufacturés. Dans ces conditions, tous les prix grimperaient dans ces royaumes, et les gens, aux quatre coins des contrées, auraient de plus en plus de mal à nourrir leurs familles. Des troubles civils seraient alors inévitables. Avec la famine, la panique risquerait de tout submerger. Et les émeutes pourraient dégénérer en conflits militaires, quand les habitants des régions touchées par le poison tenteraient de se réfugier dans des pays encore sains. Avec le désespoir pour attiser l'incendie, le désordre se généraliserait.
« Ce sont des spéculations, n'est-ce pas ?» demanda Richard. « Tu n'es pas certain que ça se passerait ainsi si la magie disparaissait ?»«
Comme ça n'est jamais arrivé, nous en sommes réduits aux hypothèses. Il se peut que le poison, dilué dans les eaux de la rivière Damar puis du fleuve Drenne, ne provoque pas de désastre, ou fasse des ravages plus localisés, ou encore que la mer ne soit pas affectée, toujours à cause du phénomène de dilution, et qu'il reste au moins des poissons comestibles. Dans ce cas, la situation ne serait pas désespérée. »
À la faible lueur du feu, s'avisa Callan, les cheveux de Zed ressemblaient à des flammes blanches.
« Cela dit, »
continua le vieil homme,
« la disparition de la magie des papillons Gambit pourrait bien, par le biais d'une cascade d'événements, entraîner la disparition de toute vie sur notre monde. »
Richard réfléchit quelques instants et hocha sombrement la tête. C'était une possibilité, il devait l'admettre.
« Tu commences à comprendre ?»
lança Zed. Il marqua une pause, puis brisa le silence de mort.
« Et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres. »«
Les carillons viennent du royaume des morts, » dit Richard. « Et il serait très content que ça se déroule ainsi. »
Nerveux, il se passa une main dans les cheveux.
« Tout à l'heure, tu as dit que les plus faibles périraient d'abord. Tu crois que la magie des papillons Gambit serait parmi les premières à mourir ?»«
Qui peut savoir si elle est faible ou forte ?»
répliqua Zed.
« Nous l'ignorons, et elle pourrait tout aussi bien être la dernière à succomber. »«
Et Callan, perdrait-elle son pouvoir ? C'est lui qui la protège, elle en a besoin. »
Richard était la première personne qui eût jamais accepté et aimé l'inquisitrice telle qu'elle était, avec son pouvoir et tout le reste. Il avait ainsi découvert le seul moyen de vivre physiquement leur amour sans que le contact de sa compagne le détruise.
« Fichtre et foutre, Richard, m'as-tu écouté ?» « Bien entendu qu'elle le perdrait. Il est magique comme le mien, le tien et celui d'Anna. Mais alors que ta femme et toi seriez simplement privés de vos pouvoirs, le monde entier agoniserait autour de vous. »«
Pour moi, » dit le sorcier, « ce ne serait pas un drame, puisque je ne sais pas utiliser mon don. Mais beaucoup d'autres personnes s'en servent pour faire le bien. Il faut empêcher ce drame. »«
Par bonheur, » rappela Zed, « il ne peut pas se produire. Ce n'était que des spéculations, comme tu disais, pour passer le temps en attendant la fin de l'orage. »
Richard releva les genoux, les entoura de ses bras et replongea au plus profond de lui-même, comme si ses compagnons n'existaient plus.
« Zed a raison, » dit Anna. « Nous ne risquons rien de ce côté-là, puisque les carillons ne sont pas passés dans notre monde. Mais Jagang nous menace toujours. »
« Si la magie disparaissait, » demanda Callan, « l'empereur perdrait-il le pouvoir de marcher dans les rêves ?»«
Bien sûr, » répondit Anna. « Mais il n'y a aucune raison de croire que,
Si les carillons étaient ici,
coupa Richard,
comment les neutraliseriez-vous? Il paraît que ce ne serait pas difficile, mais comment procéderiez-vous?
Zed et Anna échangèrent un regard interloqué. Avant que l'un ou l'autre puisse répondre, Richard tourna la tête vers la fenêtre, puis il se leva d'un bond et traversa la salle en trois enjambées. Quand il écarta le rideau et se pencha dehors pour regarder à droite et à gauche, le vent lui propulsa au visage des gouttes de pluie curieusement froides pour la saison. Les éclairs continuaient à zébrer le ciel et le tonnerre les accompagnait comme un tambour géant.
« Tu as idée de ce qui se passe sous le crâne de ce garçon ?»
demanda Zed à Callan.
« J'ai ma petite hypothèse, mais vous ne me croiriez pas. »
Richard avait incliné la tête, les oreilles aux aguets. Callan se concentra pour tenter d'entendre ce qui avait attiré l'attention de son mari. Dans le lointain, elle capta les gémissements terrifiés d'un enfant.
« Vous m'attendez tous ici !»
ordonna Richard en se ruant vers la porte. Bien entendu, ses quatre compagnons lui emboîtèrent le pas.